pour investir sur BFM Business.
Les ETF le jeudi, c'est aujourd'hui avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Lorraine Cérejol-Garros.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable du développement des ETF pour cette banque française. On est avec vous pendant un petit quart d'heure pour faire le point sur un ETF que sans doute vous connaissez tous. On va l'appeler, on va le décrire, on va se raconter ce que c'est. On parle de l'ACWI, on parle de l'ETF ACWI, pour ceux qui les lisent. All Country World, on va s'arrêter sur cet indice et savoir ce qu'on en fait quand on a envie d'utiliser les ETF pour miser dessus. Un petit peu de pédagogie pour notre audience très diverse, chère Lorraine. Que faut-il retenir sur cet ETF ?
Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être définir ce que c'est qu'un ETF. Donc c'est un fonds qui est coté en continu sur une bourse, en l'occurrence à Paris, sur Euronext Paris. L'objectif de l'ETF traditionnellement, c'est de répliquer un indice de marché. Dans le cas l'ACWI, c'est de répliquer un indice All Country World, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire tout pays. C'est-à-dire que ça donne accès à la fois aux pays dits développés, mais aussi aux pays émergents. Vous parliez tout à l'heure de la Chine, de l'Inde, la Corée du Sud, par exemple. Donc, en une seule transaction, l'investisseur a accès à une diversification géographique complète.
Est-ce que ça marche, une diversification, quand on met un peu tout dedans ?
Oui, ça marche même très bien, en tout cas sur le long terme.
Donnez-nous quelques chiffres.
Ça évite, alors j'ai pas les chiffres en tête récents, mais ça évite en tout cas sur le long terme d'être exposé à des marchés trop restreints, où on peut avoir un risque effectivement de sous-performance.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la pondération à l'intérieur de cet indice ACWI entre les pays développés et les pays émergents ?
Alors grosso modo, c'est 12% d'émergents et donc 88% de pays développés, ce qu'on retrouve dans un indice world, donc c'est-à-dire monde classique.
Pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, est-ce que c'est un indice qu'il faut à tout prix suivre et pourquoi le suivre à l'aide d'un ETF ? Ou
alors,
d'ETF au pluriel.
À tout prix suivre, oui, parce que c'est une exposition globale à tous les marchés mondiaux. Donc, ça permet de bénéficier potentiellement des opportunités de croissance sur le long terme, d'où l'intérêt d'avoir cette diversification. Mmh. Et c'est un des gros avantages, justement, de passer par un ETF, puisqu'en une seule transaction, vous allez être exposé à toutes ces grandes capitalisations de pays développés ou émergents. Pourquoi passer par un ETF ? Ben, l'aspect, effectivement, simplicité, l'aspect diversification, l'aspect aussi coût qui peut être intéressant.
Un inévitable d'un portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment techniquement on peut acheter ou se positionner sur ACWI, sur cet indice et quel est, dans le contexte actuel, comment on peut parler de cet indice et des ETF ? Est-ce que, dans un monde, je vous phrase un peu cliché, voilà, beaucoup d'élections en ce moment, un risque géopolitique sur l'ensemble du globe, est-ce que c'est un indice qu'il faut particulièrement suivre en ce moment et que dit-il de l'état de notre économie ?
Alors, c'est un indice qu'il faut suivre en ce moment parce qu'effectivement, comme il offre cette diversification, il est moins sujet à ce qui se passe au contexte géopolitique en France et en Europe, d'où l'intérêt d'être exposé sur tous ces pays. Donc ça, c'est très intéressant. Un autre facteur, vous posiez la question de l'intérêt pour un investisseur. Ce type d'exposition, ça, via les ETF, ça intéresse à la fois les particuliers pour se construire un patrimoine de long terme, mais aussi les investisseurs professionnels. Et d'ailleurs, pour parler un peu d'actualité, si on regarde les chiffres au premier trimestre, pour la première fois en Europe, on a cassé le million de transactions sur les ETF listé en Europe. Donc un fort engouement pour l'instrument ETF.
Les ETF, c'est votre métier depuis un moment. Vous chapeautez l'équipe de BNP Paribas Asset Management dédiée à ces indices, à ces fonds indiciels. Qu'est-ce que l'année 2024, si on prend un petit pas de côté, je profite de vous avoir en plateau, dit de l'intérêt que portent les Français et les Françaises à ces ETF ?
Sur 2024 Ah ben un intérêt fort, hein, parce que les statistiques que je vous ai données sur le nombre de transactions, c'est en Europe, mais c'est ce qu'on constate aussi en France. Il y a eu des chiffres de l'AMF qui ont été publiés. Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs particuliers qui traitent en direct des ETF. On voit un engouement des jeunes générations, les milléniales, qui ont pris l'habitude de traiter via des plateformes, notamment sur les ETF durant le Covid. Donc c'est vraiment une forte demande de la clientèle particulière. alors que ça avait été adopté très tôt en fait par les clients professionnels.
Ouais, ça a fait quoi, 20, 30 ans ?
Oui, 30 ans maintenant. On a fêté les 30 ans du premier ETF, effectivement.
Comment se porte la France en termes d'intérêt pour les ETF par rapport au reste de l'Europe ?
On est, alors selon les classements, le deuxième ou le troisième marché européen, derrière la Suisse et l'Allemagne.
En croissance,
en croissance,
intérêt croissant.
Et en forte croissance.
Est-ce un sujet qui intéresse de plus en plus d'investisseurs ? On va tenter de parler écologie et de combiner le terme écologie avec tracker. Car oui, c'est possible de miser sur cette thématique, on va appeler ça blue economy. Racontez-nous ce qu'on peut faire quand on est un investisseur intéressé par les ETF et par cette thématique écologie avec des gros guillemets, en particulier tout ce qui est blue economy. Donc on va plutôt parler de l'univers de la mer et des océans.
Oui, tout à fait. Alors, cet ETF, il fait partie de ce qu'on appelle les ETF thématiques. On a parlé de l'ETF Acqui, donc là, on est sur des grandes capitalisations, un indice, en fait, qui est pondéré par le poids des grandes capitalisations sur des pays développés et sur des pays émergents. Là, on rentre sur l'aspect ETF thématique et c'est un autre aspect de diversification. Mmh. Là, on ne va pas être sur un indice qui est pondéré par le poids des capitalisations, mais on va être sur des valeurs qui sont en ligne avec nos propres valeurs en tant qu'investisseurs. Ça peut être des sujets santé, des sujets éducation ou des sujets environnementaux comme le Blue Economy. Donc Blue Economy, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'économie des océans. Alors les auditeurs ou les téléspectateurs ne l'ont peut-être pas en tête, mais les océans, ça représente 50% de l'oxygène que nous respirons et ça capte 30% des gaz à effet de serre que nous émettons. Donc, préserver les océans, c'est vraiment un enjeu important, notamment pour le changement climatique.
Mais comment on concilie une envie de rendement et l'envie de sauver le monde et la planète avec quel horizon d'investissement peut-on faire ça ?
Alors, c'est des horizons long terme. Là, sur l'ETF Blue Economy, on va investir sur des grandes capitalisations mondiales.
Vous pouvez nous donner des exemples ?
Dans des secteurs. Alors, ça peut être des sociétés dans le secteur maritime, typiquement le transport maritime. Ça peut être des sociétés dans le secteur agroalimentaire, donc tout ce qui est pêche, pisciculture, aquaculture. Ça peut être aussi le secteur des énergies renouvelables, donc tout ce qui est les énergies éoliennes provenant de la marée ou des vagues. Donc on a une cinquantaine d'entreprises sur ces différents secteurs. Là, on n'a plus une diversification multisecteur, mais on va se focusser effectivement sur des secteurs en lien avec la thématique. Et ce sont des entreprises, en fait, qui sont bien positionnées pour bénéficier des ressources océaniques et créer de la valeur sur le long terme, tout en préservant les océans.
Quelle est la place de l'Europe ou des entreprises françaises à l'intérieur de cette thématique ?
Alors, on est à peu près sur des niveaux de 10%, puisqu'on a des grands transporteurs maritimes, notamment en France. On a une pondération qui est assez forte sur les pays asiatiques, du fait de la thématique océan, de la pêche, notamment de l'aquaculture, des transports également.
Bon, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de concilier une envie de rentabilité, on va dire, avec des thématiques ESG. Comment, dans un contexte économique et politique, tendu, les sujets ESG, les sujets environnement, s'en sortent ?
Alors, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a deux choses à considérer. Il y a d'abord l'aspect risque. Quand vous investissez sur des produits dits ESG Sustainable, il y a des critères en fait, de sélection des sociétés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, une fois que les entreprises ont passé ces critères, en général, elles sont plus solides et vous avez moins de risques d'investir sur un titre à controverse. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est diminution du risque au niveau de votre portefeuille. L'autre aspect, on parlait de blue economy, c'est d'investir sur des entreprises qui sont vraiment positionnées pour bénéficier des méga-trends, des méga-tendances actuelles. Et donc là, on a un potentiel de croissance sur le long terme.
Question toute simple, quand on est investisseur novice, mais qu'on investit avec le cœur, si possible aussi un peu avec sa tête, qu'on a envie de se positionner sur une thématique blue economy, qu'est-ce qu'on met en face pour diversifier son portefeuille ?
Alors, sur Blue Economy, vous avez des expositions sectorielles assez fortes sur cet ETF thématique. Il y a certains ETF thématiques également qui sont plus diversifiés en termes de secteur. Je peux citer par exemple l'économie circulaire, qui est aussi une thématique très intéressante. On a un ETF économie circulaire depuis 2019 qui fait plus de 1 milliard maintenant d'encours. Et là où on a une répartition sectorielle plus en ligne avec les indices grande capitalisation. Donc sur le Blue Economy, c'est bien d'adjoindre des ETF thématiques avec des ETF traditionnels, en fait, qui répliquent plus largement les indices. Toujours dans un souci de diversification.
Question technique, on est suivi en direct par nos auditeurs, qu'on salue. J'ai Vincent qui me demande sur LinkedIn, quel est l'encours minimum qu'il faut avoir en tête pour miser sur un ETF. Est-ce que, là, vous venez de nous citer 1 million d'encours pour cet ETF économie circulaire. Est-ce qu'il y a un niveau d'encours en dessous duquel vous ne recommandez pas aux investisseurs particuliers d'aller?
Alors, sur cet ETF, on a 1 milliard.
Donc, 1 milliard, j'ai dit 1 million, pardon. Oui, 1 milliard.
Alors, ce qu'il faut voir quand on investit sur un ETF, ce qui compte, c'est la liquidité du sous-jacent et de l'indice. Donc, quand on investit sur un indice qui représente, en fait, l'économie mondiale, il n'y a pas de minimum à considérer. Mmh. Dans la réalité des faits, à partir de 50 millions d'encours sur un ETF, on a quelque chose qui est totalement diversifié et avec un risque vraiment petit.
50 millions d'encours, un minimum, on va dire, pour envisager un ETF. Quelles sont les thématiques que vous anticipez? On parlait de méga tendances. Est-ce qu'on peut imaginer, déjà, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous anticipez comme thématiques qui vont être soit sous la lumière médiatique, soit vraiment d'intérêt financier dans les prochains mois? En admettant que la situation géopolitique reste compliquée, que les sujets d'écologie soient toujours au centre de la table, est-ce que, pour le dire très simplement et excusez ma simplicité, des ETF sur les valeurs d'armement et, par exemple, cette thématique Blue Economy sont des sujets qui vont continuer à porter?
Alors, ça peut être très complémentaire hein, pour les thématiques que vous citez. Sur les thématiques vertes, en fait, on est vraiment sur de l'investissement long terme. Et la visée pour l'investisseur doit vraiment être un horizon long terme.
Qu'est-ce que c'est long terme à votre sens?
Long terme, c'est 5 ans et plus. Hein. Donc, sur le Blue Economy, l'importance des océans, elle ne va pas être mise en cause demain. Donc, on peut continuer à investir. Après, on peut être un peu plus tactique sur, effectivement, des thématiques qui sont plus liées à l'actualité à court terme. Alors, je pense aux infrastructures, par exemple, parce que même si on est dans une situation géopolitique un peu compliquée en France, il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau européen et au niveau mondial avec le Green Deal. Mm-hmm. Et donc, on sait qu'il va y avoir un afflux d'investissements sur les infrastructures. Il va y avoir, du coup, un renchérissement des valeurs. Donc, ça peut être intéressant. Des choses comme l'infrastructure. On peut penser aussi à des ETF sur l'hydrogène. Donc, tout ce qui est nouvelle énergie avec les tensions géopolitiques qu'on a actuellement sur les énergies fossiles.
Intéressant. Ces méga tendances, évidemment, sur lesquelles on peut miser grâce aux ETF. Merci beaucoup, Lorraine Cérejol, d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable du développement des ETF à BNP Paribas Asset Management. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes. Les ETF font l'objet de cette séquence hebdomadaire le jeudi à 11h30. Et puis, vous le savez, à n'importe quelle heure, en replay, en podcast sur notre site. C'est bientôt la fin de Tout pour investir.